français avec une approche qui veut se centrer sur les systèmes d'acteurs en fait qui produisent cet habitat participatif, de manière à interroger la notion de plafond de verre de la participation, essayer de discuter de la réelle contribution des acteurs, qu'ils soient sachants ou non sachants. On reprend des guillemets parce que c'est le vocabulaire autochtone qu'on a constaté dans les groupes d'habitat participatif. Donc les limites et la nature de l'intervention des acteurs habitants dans les systèmes d'acteurs de l'habitat participatif. Donc on revient sur la France et on revient sur l'habitat participatif traditionnel, donc on définira plus précisément tout à l'heure, mais donc qui ne n'englobe pas ce que Claire appelle l'habitat léger, les habitats donc très fortement alternatifs qui se constituent en rupture au mode de vie et au mode de consommation traditionnel. Donc on est sur des opérations dont les intentions sont celles vraiment qui ont déjà été pointées au préalable, la question de la solidarité de voisinage, la question aussi de la solvabilité des ménages pour accéder à la propriété dans des dispositifs qui leur permettent donc cette accession alors que le dispositif classique ne leur permettrait pas nécessairement. Et puis cette question de la maîtrise, alors on va beaucoup revenir dessus, dans ces intentions d'opération d'habitat participatif, la recherche par les habitants d'une meilleure maîtrise à la fois de la conception puis de la gestion de l'ensemble résidentiel dans lequel ils vont habiter, notamment de l'entretien et de l'économie dans lesquelles ils sont inclus à partir de la livraison. Alors la question que l'on s'est posée, qu'on va essayer de traiter à deux voix, c'est celle qui revient finalement sur les 40 ans d'opérations participatives que la France connaît, donc dans des contextes de production urbaine qui ont beaucoup évolué durant cette période-là. Et la question que l'on pose, c'est comment le mode de production alternatif que représente l'habitat participatif questionne-t-il les catégories de l'action très prégnantes dans la production bâtie, comme celle de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage. On va revenir sur ces deux notions. Et voir comment se découpent au cours du temps ces différentes positions finalement que représentent l'une et l'autre et comment d'autres positions viennent s'inscrire dans cette dualité dans le cours du temps. Et donc la question principale qui nous anime, c'est celle de l'articulation des compétences expertes et des compétences profanes dans ces dispositifs d'action. Et donc on les interrogera à la fois sous l'angle des compétences mais aussi sous l'angle des rôles, des positions qui sont tenues par les acteurs, et enfin par les questions de valeur et d'engagement qui amènent donc ces différents acteurs dans ces systèmes d'action. Alors pour cet exposé, on va mobiliser les résultats de deux recherches que l'on a faites ensemble, et puis les résultats de la thèse d'Anne sur l'habitat participatif. Donc les deux recherches que l'on a faites ensemble et dans des équipes qui sont élargies à d'autres collègues du LAVU, on a pu focaliser dans un premier temps sur la question de la négociation au sein de ces opérations d'habitat participatif. Et dans une deuxième recherche, on avait plutôt problématisé notre approche autour de la question de l'expérimentation et de la diffusion de modèles, donc des formes de banalisation, de diffusion, d'apprentissage que les opérations d'habitat autogérées ou participatif, et là on avait centré sur l'Île-de-France, pouvait laisser analyser.
Alors, donc peut-être effectivement reprendre un peu des éléments, si ce n'est de catégorisation, mais en tout cas de revenir sous le vocabulaire qui est en France utilisé sous le terme de l'habitat participatif. Des petits éléments de rappel très clairs. Aujourd'hui, effectivement, Claire Cariou l'a redit tout à l'heure, mais il y a une convergence aujourd'hui du vocabulaire et des habitants, de leurs organisations militantes, mais aussi de l'action publique autour de ce terme-là. Pour autant, il y a une histoire de cette terminologie qui ne sera pas l'objet d'en refaire la généalogie aujourd'hui, mais redire qu'aujourd'hui, finalement, ce qui fait référence, c'est ce qui est introduit dans le corps législatif par la loi Allure, qui dit l'habitat participatif est une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s'associer, le cas échéant, avec des personnes morales afin de participer à la définition et à la conception de leur logement et des espaces destinés à un usage commun. Donc là, on retrouve des choses qui ont été dites préalablement. Le législateur précise, en partenariat, cette association peut se faire en partenariat avec les différents acteurs, l'habitat participatif favorise à la construction et à la mise à disposition de logements, ainsi que la mise en valeur d'espaces collectifs dans une logique de partage et de solidarité entre habitants. Alors pour ceux qui connaissent le sujet de l'habitat participatif, ces éléments préalables sont tout à fait connus. Pour ceux qui sont par ailleurs, lecteurs ou accoutumés à la lecture du corps législatif, par contre, cette insertion-là est particulièrement inhabituelle dans une rédaction d'un corps législatif, d'autant plus quand il s'agit d'une introduction du code de la construction et du code de l'urbanisme. Voilà. Donc, c'est intéressant quand même que le législateur ait senti la nécessité de devoir préciser effectivement le caractère justement de cette démarche et d'une démarche qu'il détermine lui comme citoyen. Alors, je me suis arrêté aussi à quelques paroles d'acteurs pour un peu incarner notre objet avant de rentrer effectivement sur ces questions de positionnement et de ces modifications des positionnements et des jeux d'acteurs sur la séquence que nous observons, nous, qui va des années 70 à aujourd'hui. Plus récemment, donc, le directeur général d'une ESH bordelaise dit « L'habitat participatif, c'est inverser le processus normal d'une opération de promotion, c'est-à-dire que normalement, un promoteur conçoit un projet, le construit et le vend. » Et là, le but, c'est de replacer le client au début, au centre. C'est-à-dire de trouver d'abord des gens qui veulent habiter ensemble et ensuite concevoir le produit en fonction de leurs besoins. Et en plus, c'est faire du sur-mesure au prix du prêt-à-porter. Alors, j'ai trouvé que cette expression est intéressante, d'autant plus remise dans son contexte. Ses propos sont tenus donc par un directeur général d'un organisme qui produit du logement social, et ses propos sont tenus à l'occasion du congrès national donc de l'USH à Montpellier de mémoire il y a 2 ans. Un autre acteur important dans le réseau français, en tout cas l'habitat participatif, c'est le vice-président d'Eurométropole, Alain Youn, qui a été longtemps le président du réseau des collectivités locales qui se sont engagées au début des années 2010 sur les questions de l'habitat participatif. Et lui, voilà ce qu'il dit. Il dit que c'est de l'utopie réaliste. C'est-à-dire que ça permet à un groupe d'habitants de rêver à la manière dont ils ont envie de vivre dans la ville, mais ça permet aussi et surtout de concrétiser ce rêve. Aujourd'hui, dans les difficultés, dans les crispations qu'il y a dans nos villes, la manière de construire la ville ensemble, avec les habitants, avec les voisins, c'est vraiment un chemin qu'il faut développer. L'habitat participatif permet à des citoyens de se mobiliser, de s'impliquer et ainsi de contribuer à cette fabrique de la ville, c'est-à-dire de ne pas seulement être chez un bailleur, locataire, chez un promoteur, acheteur, et dans une collectivité, parfois spectateur. Il est de l'intérêt de la collectivité locale de voir des convergences entre des projets de citoyens et des projets de collectivité. Et puis dans un autre entretien un peu plus loin, je ne l'ai pas rapporté là, Alain Louyoun dit que c'est aussi des opérations ou des pratiques habitantes qui bousculent l'acteur public et qui les obligent quelque part à revoir le système de l'action. Alors, du coup, ce que l'on va effectivement, nous, et Véronique l'a rappelé, Claire l'a dit aussi, le scope de ce qui est vu dans les travaux du coup de la recherche autour du terme de l'habitat participatif, c'est bien celle qui vise à produire collectivement de l'habitat au travers d'une démarche donc, qui engage dès la conception les habitants dans un processus partagé qui concerne la production d'un chez-soi, mais aussi les conditions d'un être ensemble, autour d'un patrimoine commun, donc qui est ce bien à construire ensemble. Les groupes d'habitants mobilisés cherchent souvent, et là c'est ce dont on va discuter, à devenir maître d'ouvrage d'un immeuble à construire et d'un ensemble immobilier collectif, à l'habiter ensemble, mais chacun chez soi, et à gérer collectivement ce bien, et le législateur redirait à nouveau en bon père de famille. Donc on est bien dans cette question de la gestion courante du patrimoine immobilier, c'est peut-être aussi des choses auxquelles on reviendra. Alors du coup, en France, ces expériences-là ou ces initiatives habitantes, elles ont pris différentes figures au cours des 40 années que nous observons, autour de différents vocabulaires. Le vocabulaire des années 70, c'est celui d'habitat autogéré. On a aussi vu des vocabulaires plus récents sur les habitats en autopromotion, sur la question des coopératives d'habitants qui sont un régime juridique plus spécifique. Et aujourd'hui, donc, le vocabulaire acquis ou conventionnel est donc bien celui de l'habitat participatif. Alors du coup, ce que l'on va essayer, nous, de montrer, c'est au travers de ces différentes catégories, c'est de rappeler que ce que l'on observe dans les énoncés, en tout cas, des collectifs habitants, c'est l'idée que l'habitat est conçu donc par et pour les habitants, qu'il contient dans son essence ou dans sa conception des espaces choisis, des équipements partagés, qui sont le plus souvent auto-organisés ou auto-gérés, et qui s'appuient sur une règle de gouvernance spécifique à ces collectifs habitants, et qu'en cela, ils reconsidèrent l'établissement d'un règlement qui est propre et qui n'est pas celui classiquement, soit de la copropriété, soit celui de l'allocation, genre l'organisation dans les collectifs de l'action des locataires du parc social. Si on s'intéresse à ces expériences, dans les années 70, ce que l'on avait pu caractériser, c'était qu'on avait une démarche initiale d'une demande habitante qui se construisait autour d'une critique d'un produit du logement, avec une revendication plus qualitative, avec une critique très clairement de la production de masse standardisée, et on est au lendemain de la production de masse, on est au moment où s'arrête la production du grand ensemble, à l'idée aussi d'un dépassement de l'individualisme, et là à l'époque la critique ou la crainte c'était celle de l'isolement de la famille nucléaire, mais dans du coup retrouver des solidarités qui ne se retrouvent plus forcément dans les grandes familles, mais plutôt dans des solidarités de proximité, de voisinage, et dans un ancrage qui est celui du local, du quartier, et puis très clairement, ce qui était très clairement énoncé dans les années 70 aussi, c'était l'idée d'une revendication d'un changer la vie, et je rappelle que le slogan de 77, construit dans les milieux autogestionnaires et repris la doxa du Parti Socialiste en 77, c'est changer la vie, la ville pour changer la vie. Et donc là, on est bien aussi sur cette question de la prise en main du quotidien. Alors, est-ce qu'on peut dire en France que les modalités de l'autogestion renvoient à ce que Claire nous suggérait du côté d'une lecture anglaise? Bon, c'est un débat, et peut-être que ce débat, on l'aura avec les gens qui ont travaillé aussi sur la question de l'autogestion. Mais en tout cas, cette question, en tout cas, autour du changer la vie, était présente, en tout cas, à ce moment-là, les questions de l'expérimentation, de l'innovation, autour de la construction de cette idée du cadre de vie. Si on se projette maintenant dans la période plus contemporaine, ce que l'on observe dans le changement des discours, en tout cas des collectifs habitants qui portent ces initiatives, c'est cette idée, effectivement, que l'habitat, c'est plus que du logement, et qu'on est bien sur une revendication de sortir des contre-modèles visés par, entre autres, la vente sur plan, c'est-à-dire la vente du bien chez le promoteur, où le choix, la nature du choix ou de la participation, si on pourrait l'appeler comme ça, se résumerait au choix d'un carrelage ou d'une couleur d'un papier peint. C'est aussi la revendication très clairement affichée d'être acteur de la fabrique de la ville et du coup de s'inscrire dans la co-construction des dynamiques locales. Et donc là, on voit bien que ce qui se joue dans la période contemporaine, c'est ce tournant délibératif tel qu'ont pu le décrire des gens comme Londiot, Saint-Omer ou Baquet. Et donc là, on est bien dans cette nouvelle organisation, d'une nouvelle forme finalement de partenariat autour de la décision locale. Et puis, enfin, c'est aussi de s'inscrire dans une responsabilité sociale autour du mot d'ordre, là, plutôt environnementaliste, d'un agir local et d'un penser global. Et donc, on pourrait dire que les formes contemporaines de ces mobilisations en France agissent dans un double tournant, qui est ce tournant participatif délibératif et ce tournant durabiliste autour donc des questions de la responsabilité, des consommations, d'un rapport à l'environnement et à des formes de solidarité. Alors, bon, je vais juste illustrer un peu effectivement quelques éléments. Nous, ce qui nous a intéressé au travers de cette lecture et de la question qu'on se posait sur cette idée qui nous a été suggérée par les organisateurs de cette journée, cette idée du plafond de verre, existe-t-il un plafond de verre et quels sont les éléments de la symétrie entre les positions d'acteurs dans la participation? Et donc on a revisité effectivement ce qui nous a semblé être trois moments, qui est le moment natif un peu, qui est ce moment des années 70-80, donc autour duquel naît ces questions de l'habitat qu'on appelait à l'époque plutôt un habitat autogéré. Un deuxième moment qui est celui du tournant des années 2000 et qui va être celui qui va se construire autour et avec une partie des références au vocabulaire de l'alternative et de l'autrement. Donc de l'habiter autrement, du faire autrement, d'un autre monde est possible, dirait effectivement les milieux alternatifs. Et puis d'un troisième temps, qui est beaucoup plus, qui est totalement contemporain, puisque c'est celui que nous, que l'on qualifie nous de post-allure, et qui est la manière dont aujourd'hui une partie des acteurs conventionnels, parce que le cadre a été reconnu et légiféré, eh bien, comment des acteurs conventionnels de la promotion sociale, du logement social, mais aussi plus récemment de la promotion privée, se saisissent de ces éléments de l'habitat participatif et qu'est-ce qu'ils en font. Alors dans ce cadre-là, ce que l'on a cherché à regarder autour de ces trois moments, c'est finalement qu'en est-il de la position des acteurs et de leur et de l'évolution de ce positionnement. Ce que l'on peut retenir de nos travaux, c'est que la première période des années 70-80, et on l'a déjà décrit dans un certain nombre d'articles avec Véronique, entre autres, c'est en tout cas sur le rapport des collectifs d'habitants, c'est qu'on a des collectifs d'habitants qui se saisissent pleinement de la figure de la maîtrise, de la maîtrise d'ouvrage, et donc qui revendiquent à devenir pleinement maître d'ouvrage, et, pour reprendre leurs mots de l'époque, à rompre la symétrie, c'est comme ça qu'ils le disaient, à rompre la symétrie et la domination de... Alors, il y avait deux figures de domination, qui étaient d'une part celle du promoteur, et puis surtout celle de l'architecte à l'époque. Donc, on voit bien la question qui est en débat à ce moment-là, c'est une question, finalement, de comment construire un autre rapport et sortir d'une asymétrie de rapport dual entre une maîtrise d'ouvrage nouvellement organisée et peu ou pas sachante, même si elle est par ailleurs très dans des milieux de proximité quand même avec les espaces entre autres de la fabrique du cadre de vie, et puis le monde de la maîtrise d'œuvre plus conventionnelle. Et donc dans ce tournant des années 70, ce que l'on voit, c'est effectivement une revendication donc de rompre cette dualité, de sortir de ces éléments d'une forme de domination pour rentrer dans des formes de renégociation, en tout cas de discussion, des positions d'une maîtrise d'ouvrage collective et d'une maîtrise d'œuvre qui elle-même, il faut le rappeler à ce moment-là, une maîtrise d'œuvre qui est partie prenante de ce processus, donc cette déconstruction finalement de la dualité, est faite aussi bien à ce moment-là par ces collectifs maîtres d'ouvrage que par cette maîtrise d'œuvre, qui est une maîtrise d'œuvre très particulière à l'époque, qui est une jeune maîtrise d'œuvre dans les années 70, qui arrive... qui elle-même est en rupture avec sa propre lignée, sa propre famille. On est au lendemain de 68, la réforme a été faite dans les écoles d'architecture, on est face à des nouveaux professionnels, ou en tout cas une nouvelle génération d'architectes qui eux-mêmes cherchent à conquérir un nouvel espace de dialogue avec une figure qui apparaît à l'époque très inconnue, qui est cette figure de l'habitant. Et donc on voit autour de ce positionnement, eh bien effectivement, un dialogue qui essaye d'émerger avec vraiment des formes de proximité et en même temps de débat. Quand on se replonge dans les travaux de ces acteurs-là, on voit que le débat est très fort sur finalement qui fait l'architecture. Il y a toute une série de débats comme ça où finalement l'idée c'est que l'architecture, ça serait une espèce d'œuvre conjointe, en tout cas concernant ces opérations, dans du dialogue entre ce collectif d'habitants, maître d'œuvre, et maître d'ouvrage, pardon, et puis le concepteur maître d'œuvre. Il y a aussi dans ce moment des années 70, autour de ces pratiques-là, l'idée d'expérimenter, d'ouvrir un nouveau champ des possibles. Et on voit effectivement qu'il y a aussi un certain nombre d'organismes à l'époque, comme le plan construction-architecture, qui, par son adossement, permet l'expérimentation de ce champ des possibles. Les années... la séquence qu'on a... documentée sur cette période-là, elle commence à la fin des années 70 et elle va se poursuivre et elle va s'achever tout doucement dans la deuxième moitié des années 80. La deuxième période qui nous intéresse, nous, c'est le tournant 90-2000 et la manière, effectivement, dont on voit, en tout cas en France, réémerger un certain nombre de pratiques collectives d'habitants. De pratiques, alors je ne l'ai pas précisé, mais effectivement nos travaux ont porté quasiment exclusivement sur les situations urbaines et quasiment sur des situations métropolitaines, donc ça, il faut aussi le dire peut-être pour le débat par la suite, et où on voit naître dans ce tournant des années, dans ce tournant 2000, effectivement, d'une part la constitution, à nouveau l'idée d'une constitution de collectif habitant, qui vont là aussi d'une manière ou d'une autre revêtir cette idée d'une maîtrise d'ouvrage collective, non professionnelle, mais où l'enjeu, là, est beaucoup plus on est dans des formes de partenariat qui renvoient beaucoup plus à des formes de bricolage, c'est-à-dire on n'a pas de statut pour agir, donc on va venir dans les interstices du champ des possibles et dans des formes d'ajustement des pratiques entre cette maîtrise d'ouvrage collective, et des maîtrises d'œuvre. Ce qu'on va voir aussi, donc du coup, on est beaucoup moins sur ce rapport dual et ce rapport de confrontation des années 70-80, mais on va voir tout à coup une espèce de déformation de ce rapport dual avec l'arrivée de nouveaux acteurs, alors qui ne sont pas nouveaux dans la fabrique de la ville, mais qui sont plus nouveaux dans ces débats-là, qui est la place des collectivités locales dans une série d'autres acteurs qui vont venir graviter, et on va rentrer dans l'idée que le collectif habitant va devoir être accompagné dans sa démarche. Et donc ça renvoie à aux derniers travaux que nous montrait de la situation italienne tout à l'heure, qui est l'idée qu'effectivement, il faut que cette maîtrise d'ouvrage collective, habitante et donc par essence a priori non experte, non sachante, soit informée, soit accompagnée pour devenir, pour assumer pleinement sa responsabilité des ouvrages qu'elle aura à gérer. Alors du coup, on voit effectivement que on voit se construire autour de cette maîtrise d'ouvrage habitante tout un ensemble d'acteurs qui vont, d'une certaine manière, tourner autour, mais qui vont être là aussi dans l'esprit de pouvoir consolider cette position de cette maîtrise d'ouvrage. Puis, pour en arriver au troisième temps, qui est pour nous aussi important, qui est ce temps, finalement, que l'on qualifie de post-allure, où là, on change d'une certaine manière de paradigme, parce qu'à partir de ce moment-là, les acteurs agissent, pour partie, dans un cadre qui est devenu un cadre public, un cadre reconnu, un cadre légiféré, qui est celui du cadre de la loi Allure, qui donc, comme je l'ai mis en amont, eh bien, effectivement, vont institutionnaliser l'idée même de cette pratique. Et dans ce cadre-là, on voit effectivement que, dans l'élargissement que l'on percevait au tournant des années 2000, de notre position d'acteur, en partant donc d'un rapport frontal initial par un élargissement, là on voit s'organiser assez clairement un rapport, une forme de triptyque, où le jeu des acteurs, et on voit émerger dans ce cadre-là, effectivement, une troisième figure de positionnement, qui est la figure du positionnement de la maîtrise d'usage. Alors cette troisième figure, elle a particulièrement retenu notre intérêt, parce que d'une certaine manière, c'est une figure qui permet d'une part à ce qu'une partie des collectifs habitants se retrouvent dans cette position du maître d'usage. Et donc, on se retrouve dans une organisation avec une maîtrise d'ouvrage qui peut être portée par le collectif d'habitants, mais qui peut être aussi portée par un tiers opérateur, qu'il soit un bailleur social, qu'il soit un promoteur. Et puis, la figure classiquement en face du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre. Et puis, cette troisième position, qui est cette position finalement du maître d'usage et qui devient de plus en plus la place qui est conférée à cette place habitante. Cette figure de la maîtrise d'usage, donc on voit bien qu'aujourd'hui, et on l'a encore entendu il y a quelques semaines à l'occasion d'un séminaire exploratoire qu'on avait organisé sur la question des promoteurs et de l'habitat participatif, et on voit bien qu'eux ont totalement intégré cette catégorie, qui est une catégorie finalement assez peu décrite, hein, et qui vient d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que ces catégories de la maîtrise d'usage, au départ, elles viennent plutôt des formes de lutte urbaine, de formes plutôt agonistiques et plutôt de contre, hein, d'un agir en contre. Et là, c'est réutilisé, c'est recapté par le système de la promotion ou de la production immobilière, qu'elle soit publique ou privée, pour finalement assurer une place de ces parties prenantes, mais aussi pour garantir la place des autres. C'est-à-dire que le schéma initial de la première partie, de la première séquence ou de la deuxième séquence, c'est un schéma qui, d'une certaine manière, vient discuter, vient voire même mettre à mal, potentiellement, la place des opérateurs. Tandis que dans la troisième séquence actuelle, on voit quelque part, au travers de ce nouveau triptyque, on a une forme de rééquilibrage des positionnements qui garantit les positions de chacun et qui les conforte. Donc, d'une certaine manière, elle conforte aussi celle de la maîtrise d'ouvrage, celle du maîtrise d'ouvrage plus conventionnelle peut-être, et celle d'une maîtrise d'œuvre. Alors, quand on dit ça, on voit bien qu'en même temps, il y a une captation de positionnement de la part des collectifs habitants et reconnue d'une certaine manière dans cette valeur de la maîtrise d'usage, On leur confère une place, on leur confère d'une certaine manière une forme d'expertise, ou alors si elle n'est pas produite, en tout cas c'est une expertise qu'il faut entendre comme telle et qu'il faut pouvoir construire et étayer. Donc on reconnaît l'idée qu'il puisse y avoir aussi des assistants à maîtrise d'usage. Donc là on voit que tout à coup tout ça est en train de s'équiper, mais de la même manière ça permet aussi de garantir ou de moins discuter les positions historiques d'une maîtrise d'ouvrage et d'une maîtrise d'œuvre. Alors, voilà une première vision autour de ces questions-là. On peut aussi avoir rapidement une autre lecture qu'on a menée conjointement, parce que pour nous, et Véronique va revenir dessus, il ne s'agissait pas pour nous de limiter le débat qu'à la question des compétences, mais de croiser ça à la question des compétences, donc des positionnements et des engagements, parce qu'on voit bien que ce jeu des positionnements ne se fait en réalité en même temps que traversé par un débat sur les engagements et du coup sur les engagements des alternatives. Alors là, si on refait une lecture de notre séquence des 40 ans, mais en ne prenant plus du coup la diachronie, genre la chronologie de la diachronie, mais en la regardant dans sa globalité, hein, la séquence autogestionnaire et puis la séquence durabiliste et la séquence très contemporaine, on pourrait se dire que finalement, du point de vue des engagements, on voit trois positions des engagements ou trois débats autour des engagements sur la nature même des alternatives. Une première qui vient questionner la question de l'autogestion, en tout cas, et que nous avons vu et lu, nous, ou en tout cas écrit, comme une revendication d'une forme de contestation, ou en tout cas de revendication par rapport au pouvoir politique et par rapport à la domination donc de l'État en l'espèce, souvent, ou en tout cas de la représentation de la figure tutélaire de l'État. La deuxième, et donc là il s'agit de produire une alternative à cette position dominante. La deuxième alternative, c'est une alternative pour nous qui se construit dans un rapport finalement à une alternative à la propriété, et en tout cas la propriété individuelle, vue d'une part comme une forme qui serait enfermante d'une certaine manière, et surtout qui serait vue comme aujourd'hui le siège de l'action spéculative patrimoniale. Et donc là, il s'agit bien de dépasser cette forme-là, de trouver des formes alternatives à cette propriété individuelle et à repenser du coup l'habitat non plus comme un bien, mais comme support d'un certain nombre d'usages et de pratiques. Et puis, non pas dans le temps, mais la troisième position d'alternative qui nous a semblé intéressante et qui se conjugue dans ces différents temps, c'est celle aussi de la revendication d'un agir collectif, où du coup les parties prenantes cherchent à effectivement construire des éléments d'un en commun ou d'une mise en commun pour sortir d'une certaine manière là à des formes d'individualisme auxquelles le marché néolibéral enfermerait. Donc là on revient vraisemblablement peut-être, on croise en tout cas peut-être des catégories que Claire pouvait évoquer tout à l'heure. Bon, voilà du coup un premier regard sur ces questions des positionnements et ces questions des revendications. Puis je vais te passer la parole à
Véronique pour la suite et la fin.
Oui, donc pour revenir sur cette question des compétences et de ce débat permanent tout au long de cette histoire de l'habitat participatif, mais qui serait probablement observable tout aussi bien dans d'autres formes d'action participative, donc cette question de l'asymétrie. Qui nous rappelle fortement ce que les économistes des services travaillent donc autour de cette question, le marketing de services aussi, dans cette question de l'asymétrie. L'asymétrie étant posée par ces économistes comme la particularité dans la production de services d'une relation triangulaire qui met en contact le client, le prestataire, donc dans notre cas de figure c'est le concepteur, l'ingénieur, le conseiller, le consultant, et puis l'objet lui-même qui fait l'objet de la relation de service. Et selon les économistes, la relation de service ne va pas sans une asymétrie de compétences qui est liée au fait que fondamentalement le client ne dispose pas de la compétence que son prestataire développe sur le service qu'il va lui commander. Donc si on en croit Jean Galeret, toute relation de service est une relation de pouvoir, dans la mesure où un individu se voit conférer un rôle d'expert et de ce fait-là, une position de force par rapport à celui assume le rôle réciproque de bon expert ou de novice. Et pourtant, quand on lit les sociologues interactionnistes, on se rend compte que cette relation entre expert et non-expert n'est pas aussi simple que cette relation de pouvoir semblerait le montrer, dans la mesure où vient parasiter finalement dans ce rapport de force la question de ce qu'ils appellent les prises de rôle, c'est-à-dire la manière dont individuellement, donc en mobilisant des identités situées, comme ils le disent, les interactions sont conduites par les uns et par les autres, donc dans des formes qui varient bien sûr en fonction des situations, donc totalement diverses à chaque fois. Donc ça nous amène en fait à réfléchir aux situations d'action qui sont très différentes, et c'est d'ailleurs un des obstacles de ce type de recherche que d'être confronté à des cas qui sont autant pratiquement de cas individuels et dans lesquels la montée en généralité doit être soumise à pas mal de précautions méthodologiques. Donc on a vu dans certaines situations d'action, comme Anne l'annonçait, et comme on a pu le voir dans les situations italiennes aussi, des groupes d'habitants qui n'étaient pas dans une asymétrie de compétences extrêmement forte, puisqu'il y avait dans leur sein des architectes, des ingénieurs, des promoteurs, des urbanistes, donc qui revendiquaient finalement un certain type de compétences et la challengeaient, je ne sais pas comment on pourrait dire plus élégamment, avec leurs prestataires dans la délibération et dans la prise de décision. Donc ce sont bien des cas dans lesquels le fameux plafond de verre, donc celui qui empêcherait les non-experts d'atteindre une vraie relation d'équivalence avec les experts, s'effondre, dans la mesure où effectivement un certain nombre de compétences sont partagées, ce qui crée d'ailleurs, ce qu'on a pu observer dans différentes situations, des dissensions et des conflits qui peuvent être assez forts. À l'inverse, on a vu des dispositifs dans lesquels la symétrie de compétences semblait forte depuis l'origine et dans lesquels cette question de la capacitation des habitants était réellement prise à bras-le-corps par l'ensemble des acteurs, donc avec comme maître mot la question de la pédagogie, comment donner à ses habitants les compétences qui leur sont nécessaires pour être lucides sur le processus dans lequel ils s'engageaient et pour pouvoir y participer sciemment. Donc on a vu un certain nombre de situations dans lesquelles des séquences de formation des habitants, mais au sens propre de la formation, avec un enseignant et éventuellement même étaient fournies, donc en matière de droit de l'urbanisme, en matière d'économie immobilière par exemple. On a vu aussi le registre pédagogique se développer dans des formes d'interaction des concepteurs avec le groupe ou des concepteurs avec les ménages, dans lesquels étaient explicitées plus que d'habitude les références partagées, les enjeux du projet, les clés de lecture des différents outils qui étaient présentés pour débattre. La question aussi du vocabulaire était bien sûr au cœur de cette question de la capacitation des habitants à entrer pleinement dans les processus de décision qui les concernaient. Alors, ce qu'on peut noter aussi, c'est que cette question de l'articulation des expertises se joue de manière très différente selon les phases du projet. Et on a pu distinguer des phases assez clairement identifiées de ce point de vue-là, dans la continuité simplement du processus, en partant par exemple de la question du diagnostic, la question de la programmation qui fait intervenir beaucoup de débats avec les habitants, puis d'autres périodes dans lesquelles le rapport d'équivalence de compétences est plus délicat, comme celui du montage de dossiers qui fait intervenir des questions administratives, juridiques qui sont plus complexes, et la question de la conception et de la réalisation qui sont très fortement tenues par les acteurs professionnels de ces tâches-là. Donc la question de la position des acteurs nous invite à conclure peut-être sur la question qui maîtrise quoi. On a joué un peu avec ces notions de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'usage. Donc la tentation qu'on a, c'est d'essayer de comprendre comment ce triptyque fonctionne dans les systèmes d'acteurs qu'on a pu observer dans le cadre de l'habitat participatif. Donc on l'a vu hein, dans la première période, telle que Anne l'a présentée, donc cette période des années 70 jusqu'au milieu des années 80, on a vraiment un dispositif assez horizontal dans lequel la symétrie est réduite autant que possible hein, de par la compétence intrinsèque des groupes d'habitants et puis par cette tentative et cet engagement des architectes à entrer dans une forme de face-à-face non hiérarchisé avec les habitants. Dans la deuxième période, c'est plutôt en fait la diffusion de tout un tas de niches professionnelles que l'on voit apparaître, donc aussi bien dans la maîtrise d'ouvrage, où on voit des configurations très variées se développer, donc autour de maîtres d'ouvrage professionnels, publics, privés, on a évoqué les deux types de maîtrise d'ouvrage, les bailleurs sociaux, les promoteurs privés, qui agissent pour le compte des habitants ou qui agissent pour leur compte, mais avec des protocoles d'attribution des logements en accession, en location, ou encore selon un statut coopératif. On voit des profils d'assistants à la maîtrise d'ouvrage se développer, et aussi prestataires des groupes d'habitants, prestataires des maîtres d'ouvrage. Les collectivités locales, on l'a dit, viennent aussi dans le jeu. Les sources de financement se multiplient avec le rôle de fondation. Voilà, il y a donc toute une montée en diversité des acteurs qui interviennent dans l'habitat participatif. Et puis, comme on l'a dit, dans la période récente, sur laquelle on est plutôt sur des hypothèses, parce qu'on est vraiment, on manque encore de recul pour en faire une analyse tout à fait assurée, on voit donc effectivement ce triangle se mettre en place et se stabiliser autour d'acteurs qui se spécialisent dans la maîtrise d'ouvrage, d'autres acteurs qui donc se spécialisent du côté de la maîtrise d'œuvre, et on voit effectivement des concepteurs revenir de manière récurrente sur des opérations d'habitat participatif, souvent d'ailleurs en lien avec des formes universitaires de réflexion. Ce sont des architectes qui sont proches du milieu de l'enseignement et du milieu de la recherche, c'est intéressant à noter. Et puis la montée de cette fameuse maîtrise d'usage, dont la définition qu'en donne Isabelle Pasquier en 2002, c'est celle d'une prévision des usages, ce qui aurait valeur de prescription pour les maîtres d'œuvre et d'ouvrage. Ce qu'on en observe, nous, c'est que cette notion de maîtrise d'usage a mis longtemps à entrer dans le domaine de la recherche. Ça a été longtemps une terminologie un peu... un peu suspecte pour les chercheurs. On l'attribuait au vocabulaire des milieux opérationnels et on avait du mal à s'en saisir. Je remarque que depuis 2010-2015, il commence à y avoir des travaux de recherche avec cette intitulé-là de la maîtrise d'usage. Et ce que l'on a pu entendre dans la séance du Réal il y a une quinzaine de jours où des promoteurs étaient là, c'est qu'effectivement, la notion de maîtrise d'usage correspond avec leur intérêt professionnel propre d'inclure les opérations dans un continuum temporel assez long, donc avec une période assez fouillée, on va dire, de programmation, de définition des attentes des habitants, qui, eux, les aident à avoir une période de pré-commercialisation beaucoup plus rapide. Donc il y a bien un impact économique et opérationnel important pour eux de prendre en compte cette notion de maîtrise d'usage. Et on commence à voir, parce que les opérations commencent à sortir de terre, une préoccupation du même type sur la période de gestion, donc après la livraison du bâtiment. Je crois des promoteurs nous disaient on s'interroge sur la manière de les lâcher, nos habitants, donc après la réalisation de cette opération dans laquelle des liens très étroits ont été construits. Et donc, on voit des opérateurs réfléchir avec des groupes d'habitants sur des formes de gestion coopérative, de coopérative de charges, je crois que le terme est celui-là. Donc, de formes alternatives aussi de gestion de ces ensembles résidentiels qui ont été réalisés dans le cadre de l'habitat participatif. Alors, peut-être au titre du jeu de mots, mais peut-être un petit peu plus. Je terminerai en évoquant donc dans cette redistribution des cartes hein, autour des différents types de maîtrise, ce que dans sa thèse, Edith Hallauer appelle la déprise d'œuvre, donc il faut le prononcer correctement, donc en définissant sous cette expression les mouvements que l'on perçoit chez les maîtres d'œuvre d'un intérêt davantage pour les processus de production que pour l'objet final qui en résulte. Le projet devenant pour eux davantage la construction d'espaces de négociation entre professionnels et habitants, un jeu entre la posture du faire avec, du laisser faire, du faire faire. donc dans lesquels les concepteurs sont amenés à se déprendre, donc c'est bien l'origine de la formule, de leur œuvre, mais aussi à se déprendre de la maîtrise dans un certain degré, donc avec un certain savant dosage entre laisser aller et conduite active. La question que l'on voit maintenant beaucoup dans les questions aussi d'urbanisme tactique, transitoire, temporaire, s'ouvrir à l'imprévu, au non programmé, et même éventuellement d'engendrer les conditions de l'évolution même de ce projet. Voilà, je terminerai sur cette question-là, donc qui nous ouvre très directement de l'habitat participatif à ces questions de l'urbanisme tactique transitoire qui suscite pas mal d'intérêt dans les milieux d'architecture et de l'urbanisme actuellement.